Nous prîmes le chemin de l'église, en sortant, par notre passage habituel que je parcourus en hâte et les yeux fermés, car tous ces os me rappelaient avec trop grande évidence cette nuit-là que moi aussi j'étais poussière, et qu'insensé au plus haut point avait été l'orgueil de ma chair. Arrivés dans la nef, nous vîmes une ombre devant le maître-autel. Je croyais que c'était encore Hubertin. C'était Alinardo, qui, tout d'abord, ne nous reconnut pas. Il dit que désormais incapable de dormir, il avait décidé de passer la nuit à prier pour ce jeune moine disparu, dont il ne se rappelait pas même le nom. Il priait pour son âme s'il était mort, pour son corps s'il gisait infirme, et seul en quelque endroit. « Trop de morts, disait-il, trop de morts, mais c'était écrit dans le livre de l'apôtre. Avec la première trompette vint la grêle, avec la deuxième, le tiers de la mer devint du sang. Et vous avez trouvé l'un dans la grêle, l'autre dans le sang. La troisième trompette avertit qu'un astre de feu tombera sur le tiers des fleuves et sur les sources. Alors je vous le dis, a disparu notre troisième frère. Et craignez pour le quatrième, parce que nous serons frappés le tiers du soleil et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, si bien que l'obscurité sera presque complète. » Tandis que nous sortions du transept, Guillaume se demanda si dans les paroles du vieillard, il n'y avait pas quelque chose de vrai. Mais, lui fis-je observer, cela supposerait qu'un seul cerveau diabolique, se servant de l'Apocalypse comme guide, aurait préparé les trois disparitions, en admettant que Béranger aussi soit mort. En revanche, nous savons que celle d'Adelme fut due à sa volonté. « C'est vrai, dit Guillaume. Mais le même cerveau diabolique ou malade pourrait avoir tiré inspiration de la mort d'Adelme pour organiser de façon symbolique les deux autres. Et s'il en était ainsi, Béranger devrait se trouver dans un fleuve ou dans une source. Et il n'y a ni fleuve ni source à l'abbaye, du moins pas tel que quelqu'un s'y puisse noyer ou puisse être noyé. Il n'y a que les bains, observai-je presque par hasard.
« Atso, dit Guillaume, tu sais que ça peut être une idée, les balnéas.
Mais ils ont déjà dû regarder. J'ai vu les servants ce matin lorsqu'ils faisaient leurs recherches. Ils ont ouvert la porte du bâtiment des balnéas et ont donné un coup d'œil circulaire, sans fouiller. Ils ne s'attendaient pas encore à devoir chercher quelque chose de bien caché. Ils s'attendaient à un cadavre gisant théâtralement quelque part, comme le cadavre de Vénantius dans la jarre. Allons jeter un coup d'œil. Aussi bien, il fait encore sombre, et il me semble que notre lampe brûle encore avec plaisir. » Ainsi fîmes-nous, et nous ouvrîmes sans difficulté la porte des balnéas, adossée à l'hôpital. Isolées l'une de l'autre par de larges rideaux, il y avait je ne sais plus combien de baignoires. Les moines s'en servaient pour leur hygiène, quand la règle en fixait le jour, et Séverin s'en servait pour des raisons thérapeutiques, car il n'est rien de tel qu'un bain pour calmer le corps et l'esprit. Une cheminée dans un angle permettait aisément de réchauffer l'eau. Nous la trouvâmes souillée de cendre fraîche, avec devant une grande chaudière renversée. Dans un coin, on pouvait puiser l'eau à une source. Nous regardâmes dans les premières baignoires qui étaient vides. Seule la dernière, dissimulée par un rideau tiré, était remplie avec, à côté en tas, une vêture. À première vue, à la lumière de notre lampe, la surface du liquide nous sembla calme. Mais comme la lumière donna dessus, nous entrevîmes sur le fond, inanimé, un corps d'homme, nu. Nous le tirâmes lentement hors de l'eau. C'était Béranger. Et lui, dit Guillaume, avait vraiment la face d'un noyé. Les traits de son visage étaient enflés. Le corps, blanc et mou, sans un poil, avait l'air d'un corps de femme, si l'on exclut le spectacle obscène des flasques pudenda. Je rougis, puis un frisson me parcourut. Je fis le signe de croix, tandis que Guillaume bénissait le cadavre. «